Allez, bon, allons-y, c'est le moment de l'agiter.
Oh, j'avais pas vu l'heure.
Et c'est sur l'autre radio. On vit dans un monde cassé, on ne prend plus le temps de réparer. Quand quelque chose ne va plus, on jette. Un objet, un amour, un rêve. Réparer est devenu à un moment suspect, comme si s'entêter à sauver ce qui vacille nous rend nous-mêmes bancal, quand tout pousse à effacer, à recommencer ailleurs, plus vite, plus neuf. Et pourtant, il y a une force dans ce geste-là. Réparer, ce n'est pas refuser l'usure, la nier. C'est dire « je vois les fissures et je choisis d'aimer quand même ». Je ne crois pas que l'on puisse aimer sans accepter l'imperfection et je crois que créer, c'est justement partir de ce qui est abîmé, de ce qui résiste en tout cas, pour faire naître quelque chose. Je crois que la beauté, la vraie, ne vient pas de ce qui est intact, mais de ce qui a traversé, de ce qui porte les traces du temps, de la perte, du recommencement. Tenir une caméra, c'est peut-être ça au fond, refuser de détourner les yeux, choisir de regarder ce qui se fendille, ce qui se bat, ce qui recommence. Ce n'est pas figer les choses pour les rendre jolies, ce n'est pas capturer pour posséder, c'est tenir au creux de ses mains le tremblement du monde, essayer de l'écouter sans le corriger. Je me raconte peut-être des histoires, mais pour Freddy Mouchard, ça fait un peu partie de ça, de ce qu'il traverse ses films. Il trouve dans les plis du quotidien, dans les gestes, des fragments essentiels de ce monde, des choses qui réparent. Et alors ça tombe bien puisque c'est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la toute première édition du festival Cinéma et Conscience qui commence demain au cinéma Le Palace à Château-Gontier. Voilà, c'est un moment qui commence bien, ensuite c'est votre moment, celui de la lecture de l'auditeur, une lettre, un poème, un souvenir, ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Ensuite, aujourd'hui, nous découvrirons le deuxième épisode de notre reportage avec le collectif Hors Pair, un collectif de pères aidants qui fait de la musique une manière d'être ensemble, de soigner les troubles psy, d'en parler et sans blouse blanche. Et nous terminerons ce petit rendez-vous avec la chronique de Donatien, il écrit des phrases, il joue avec elles, il les retourne et parfois, au nom même souvent, il en fait surgir un petit miracle. Voilà, après ça, il faut rester jusqu'au bout, vous l'imaginez bien. Et puis je ne suis pas seule, Maxime est là à mes côtés, discret chef d'orchestre, il me fait signe quand je parle trop longtemps, quand mes introductions s'éternisent et c'est probablement ce que tu essaies de me dire là Maxime, je ne crois pas que tu me fasses coucou de la main, on est ensemble depuis ce matin dans le studio. Comment est-ce que tu vas ?
Bonjour à tous, à Super et toi Margot ?
Eh bien très bien, puisque je sais que des oreilles fidèles nous écoutent, bienvenue à vous amis auditeurs, je suis Margot. Et oui, il est temps que l'on passe à l'entretien du jour. L'agité du local sur l'autre radio. Alors je le disais, parfois le cinéma ne se contente pas de raconter des histoires, il devient un chemin vers les autres, vers soi-même, un espace où l'image, le son, les silences aussi invitent à ralentir, à ressentir, à questionner ce qui nous relie au monde. Alors Freddy Mouchard, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous faites partie de ces réalisateurs qui cherchent au moins à expliquer qu'à éveiller. Vous êtes un artisan du regard, je crois qu'on peut le dire comme ça. Vous captez les gestes, les présences, les quêtes intérieures et vous serez présent justement cette semaine au Festival Cinéma et Conscience qui commence demain à Château-Gontier. Pour présenter deux de vos films, Le geste créateur et Guérison, la quête de l'harmonie. Alors, aujourd'hui, on prend le temps de parler de votre travail, de ce qui le traverse et donc aussi de vos films. Mais avant de se plonger dans votre univers cinématographique, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Comment est-ce que vous en êtes venu au cinéma et qu'est-ce qui vous a guidé ? Qu'est-ce qui a guidé vos premiers pas dans la réalisation ?
En fait, je crois que j'ai toujours voulu faire du cinéma, j'ai toujours voulu m'exprimer, donc je suis aussi un homme de parole, donc je trouve que le cinéma, évidemment, est un moyen d'expression complet qui mélange, parle de septième art, hein, évidemment, qui mélange la musique, les émotions, qui mélange la connaissance, qui mélange les paysages, la nature. En fait, c'est l'expression où je me sens le mieux en tant qu'artiste, donc je crois que c'était écrit comme ça, j'avais besoin de faire du cinéma et je le fais. Donc c'est la vie me rend parfaitement heureux, voilà, de ce point de vue-là.
Alors vous êtes réalisateur, mais vous êtes aussi scénariste, acteur, parfois même photographe et producteur. Comment est-ce que vous articulez toutes ces facettes dans votre démarche artistique ?
Écoutez, en fait, c'est faire un film, c'est une expression, et donc selon les besoins du film, j'ai pu, avec le temps, avec l'expérience, euh, voilà, acquérir différentes compétences dans différents secteurs. Et donc, étant producteur, eh bien, parfois, je fais le choix d'assumer certains pans techniques, parfois d'autres moments non, ça dépend des films. Mais effectivement, j'aime m'immerger dans le film et faire l'image et dans la réalisation, c'est quelque chose qui pour moi sont liés. Et donc, comme j'aime aussi la nature et que je filme beaucoup dans la nature et que je vis dans cette nature, eh bien, c'est plus facile pour moi de faire les images, d'avoir une caméra quasiment en permanence avec moi pour faire ces images et pour nourrir les séquences de nature. Alors évidemment, quand on fait de la fiction, on a des équipes plus importantes, plus grosses, mais ce rapport à l'image, ce rapport charnel à l'image, à la lumière, j'aime la lumière, et donc évidemment que le travail de chef opérateur, lorsqu'on fait des images, c'est ce rapport à la lumière, cette sensualité avec la lumière. J'aime beaucoup les lumières de matin ou de fin de journée, ces lumières radantes qui amènent un modelé à l'image, et je cherche aussi ça, parce que pour moi, en tant que réalisateur, l'image, même que le son, que la musique, font partie, sont le prolongement même de l'expression.
Et alors, ce qui est intéressant, ce qui traverse vos films, c'est souvent une quête de sens, une dimension un peu spirituelle ou en tout cas intérieure. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à explorer ces territoires-là, justement, à travers le cinéma? En quoi c'est devenu important pour vous?
Bon, en fait, c'est devenu important parce que c'est moi, c'est ma vie, c'est comme ça que je conçois le monde. Je ne peux pas concevoir une vie sans spiritualité. Pour moi, la spiritualité au sens large, c'est-à-dire la reliance avec la nature, avec les autres, fait partie totalement de la vie. C'est pour ça que j'aime partager à travers mes films cette dimension-là. Alors évidemment, parfois, et souvent d'ailleurs, on retourne dans le passé parce qu'un être a besoin de ses racines, a besoin de savoir d'où il vient pour se projeter et envisager son avenir dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça fait partie de cette quête de sens, cette quête, cette interrogation de la vie. Et quand on commence à entrer sur ce chemin, on pourrait parler de chemin initiatique, eh bien, on trouve des réponses. Et de réponse en réponse, on avance et finalement, on fait une vie. Et donc, ces personnages-là que je cherche à raconter, eh bien, ils font des vies. Alors, que ce soit à travers du documentaire ou de la fiction, effectivement, ce qui m'intéresse souvent, les films sont souvent structurés autour de parcours, de marches, de déplacements, parce que finalement, pour moi, c'est l'image de la vie, à l'image de ce jeu de loi que j'ai pu mettre un jour, une première fois dans un film, ce jeu où on avance de case en case, qui est en fait une belle expression du chemin initiatique. Donc oui, ces films sont souvent structurés comme ça, comme un parcours.
Et alors, donc, le festival Cinéma et Conscience commence le 30 avril, il s'étend jusqu'au 4 mai au cinéma Le Palace à Château-Gontier. C'est un festival donc, qui met l'accent sur les films qui questionnent particulièrement notre rapport au monde, à la nature, à l'humain. Est-ce que vous pensez que le cinéma trouve sa place, joue un rôle important dans la transformation des consciences sur ces thématiques-là? Est-ce qu'il s'implique suffisamment, peut-être même, aujourd'hui?
Je ne sais pas si ça implique suffisamment. En tout cas, la puissance du cinéma est importante, elle est indéniable, même pour des films de divertissement, même pour des films grand public, ils ont une influence, ils nourrissent la conscience collective et individuelle. Donc, c'est une vraie expression qui a de la puissance de ce point de vue-là. Après, tout dépend de ce qu'on raconte comme histoire, où est-ce qu'on veut aller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de pouvoir emmener le public, de le prendre par la main et de l'emmener dans des espaces de conscience plus larges, que ce soit en rapport à l'histoire, à la nature, à la guérison, à la santé, à la spiritualité. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et donc, oui, le cinéma est un magnifique outil d'éveil de conscience, je pense. Et là, on parle de la conscience individuelle qui elle-même est reliée à une conscience plus large, une conscience collective.
Est-ce que vous avez l'impression peut-être qu'un public nouveau s'ouvre aujourd'hui à ce type de cinéma, peut-être plus engagé, plus lent, plus intérieur?
Oui, il n'est pas toujours plus lent, hein, parce que moi, en l'occurrence, je fais des films assez rythmés avec un montage cut assez fort, mais en même temps avec une douceur, une harmonie, un équilibrage des séquences. Je pense que oui, il y a un public aujourd'hui, il y a un public qui s'interroge. Il faut dire que l'offre audiovisuelle, de cinéma est telle sur les plateformes, sur le cinéma, la télévision est tellement importante qu'il a aussi besoin, ce public, d'aller se nourrir d'autres nourritures, qui sont peut-être moins standardisées, moins uniformisées, et d'aller chercher une saveur, une qualité d'interrogation, d'espace aussi, parce que je pense que le cinéma est aussi une proposition d'espace de réflexion dans un continuum temps. On invite le spectateur entre une heure et demie, deux heures, de faire un parcours. Et dans ce temps-là, eh bien, il y a un dialogue qui se crée entre l'écran, entre la musique, entre l'œuvre et le spectateur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer ça. C'est d'explorer cette créativité qui s'active à chaque visionnage. C'est pas un film imposé et en même temps formaté qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cette relation, cette création, cette créativité qui s'opère entre le public et le film.
Et alors, un de vos films que l'on va découvrir le vendredi 2 mai à 15h, il s'agit du Geste Créateur. Est-ce que vous serez présent justement aux côtés de Maïn Seri et Christian Moretti lors de la projection? Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de ce film et de ce qu'il nous raconte?
Oui, je serai présent pendant tout le festival, puisqu'en fait, je suis aussi partie prenante de l'organisation, puisque c'est à notre initiative, avec le cinéma Le Palace, que nous avons créé ce festival. Donc, par rapport au film Le Geste Créateur, c'est un documentaire qui va interroger la question de la conscience à travers le geste, et notamment en regardant, en étudiant le geste de l'artisan. Alors, il s'agit de l'artisan d'art dans les métaux, mais de regarder comment et à quel moment, et est-ce que, on peut s'interroger même au tout début, est-ce qu'il y a une conscience dans la matière, et cette conscience, d'où vient-elle? Est-ce que l'artisan qui crée un objet, eh bien, est-ce qu'il peut insuffler de la conscience dans cette matière, et est-ce que cette matière, cet objet qui va être créé, va émaner cette conscience? Est-ce que l'utilisateur final va pouvoir profiter de cette conscience qui a été intégrée dans l'objet? C'est ce qu'on interroge dans ce documentaire particulier, à travers donc le geste de l'artisan dans le métier des métaux.
Alors ce film met justement à l'honneur des artisans. Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux? Est-ce que c'était plutôt un dialogue à trois? Comment est-ce que vous avez créé ensemble, collaboré sur ce projet-là?
En fait, je connais bien Maïn et Christian depuis de nombreuses années, donc j'aime le travail qu'ils conduisent dans les métaux et dans l'art de la métallurgie, donc tout ce rapport à l'élément, quoi, l'élément et la matière dans sa grande densité. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que compte tenu de leur savoir-faire, on a mis des personnages qui ne connaissaient pas les métaux, qui ne connaissaient pas cet art du fèvre ou du taillandier. Et donc, on les a confrontés, ils se sont confrontés avec le geste sans savoir comment pratiquer ce geste, pour justement créer un décalage et voir comment est-ce qu'il y avait une conscience au-dessus du geste et au-dessus du savoir. Est-ce qu'on pouvait se connecter à cette conscience, on va dire, globale, collective, et est-ce qu'un individu qui ne sait pas faire, qui n'a pas, est-ce qu'il peut se connecter à cette conscience et de ce fait apprendre le geste et y mettre la conscience nécessaire? Donc c'était une expérience, hein, on a mis quatre personnes dans un cadre particulier qu'on a filmé dans cette expérience-là, et donc ça nous ouvre, nous, spectateurs, un chemin de compréhension, et c'est ce que je cherche en fait.
Et alors le lendemain, le samedi 3 mai à 20h, on aura la chance de découvrir en avant-première votre film « Guérison, la quête de l'harmonie ». Comment est-ce qu'est né ce projet et qu'est-ce qu'il va creuser cette fois-ci?
Eh bien en fait, ce projet est né il y a quelques années déjà, hein, donc cette notion cette idée de la guérison est venue vers moi sous l'angle de la quête de l'harmonie. Et ce film va interroger... La question de cette guérison depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire à nos jours. Et pour nous, spectateurs contemporains, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette quête de l'harmonie, de l'équilibre. Et donc, on se rend compte que dans notre histoire et en même temps dans des pratiques de guérison différentes de ce qui peut se faire de manière majoritaire, eh bien, il y a cette idée derrière qui est de rétablir un ordre perdu. Qu'une maladie serait en fait un déséquilibre qui s'est mis en place d'une manière ou d'une autre, et d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a un chemin possible pour retrouver cette harmonie perdue. Alors bon, là, il y a eu des expériences liées à des consciences de chaque époque. À la préhistoire, évidemment, on connaît l'art rupestre, et derrière, on peut y trouver des rites de guérison. Lors du Moyen-Âge, eh bien, on a aussi des rituels très particuliers. On va aller visiter le carnaval avec toute sa symbolique et tout son effet catharsis qu'il peut apporter à une société. Et puis, on va remonter comme ça le temps, mais en même temps avec un temps dilaté, avec des temporalités parallèles. Et tout ça en retrouvant aussi l'idée du conte merveilleux qui avait aussi une fonction dans l'histoire de réharmoniser le groupe, la tribu. Et donc, on va jouer sur différents plans de temporalité pour essayer à nous-mêmes d'avoir une expérience de cinéma un peu hors norme pour aller vers cette quête de la guérison et surtout de cette harmonie perdue. Est-ce qu'un film peut, au bout de 2 heures, nous reconnecter avec cette conscience, on va l'appeler comme ça, de cette harmonie qui nous permet d'être bien, d'être dans notre équilibre individuel en lien avec évidemment le cosmos, le grand tout, peu importe comment on l'appelle. Et voilà, c'est ça la quête du film. C'est vraiment un film d'expérience, quoi. Je suis très heureux qu'il puisse être au festival en avant-première, puisqu'il ne sortira au cinéma qu'en octobre. Donc, je suis très heureux de ce moment.
Si on parle davantage du festival dans sa globalité, vous l'avez dit, vous faites partie de l'organisation du festival. Donc, il a lieu du 30 avril au 4 mai, je le rappelle. Avec quel mot est-ce que vous présenteriez l'intention derrière ce festival? Quel public est convié? Qu'est-ce qu'il va découvrir?
L'idée au départ, c'est de créer un espace où on va avoir des films, programmations, même aussi des animations, des dialogues, des échanges autour de cette question de la conscience au sens du regard qu'on porte sur le monde. La conscience, en fait, c'est à la fois l'outil et ce qui nous permet de décoder le monde. Et donc, ouvrir et élargir sa conscience, c'est voir le monde plus large, plus grand. Je crois que nous sommes à une période clé de notre histoire où nous avons la connaissance, l'expérience, mais en même temps de grands enjeux qui se présentent devant nous. Et on ne pourra pas, à mon sens, les aborder de manière sereine si on n'a pas une conscience large, si on n'a pas une capacité à comprendre le monde avec toute sa globalité. À la fois, on dirait, une vision holistique, d'un point de vue de la santé, une vision large qui intègre plusieurs éléments en même temps. Donc, on va effectivement aller voir cette question de la conscience dans le travail. Est-ce qu'il y a d'une autre manière? Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre manière de concevoir le travail et de se positionner? Le rapport à la santé, évidemment, on vient d'en parler. Le rapport à la méditation, le rapport à la spiritualité, le rapport à l'âme. Il y a un film sur la question de l'âme. Est-ce qu'il y a une autre vie en dehors du monde physique qui est très présent autour de nous? Enfin, toutes ces questions-là, sans pour autant avoir une vision dogmatique et dire, voilà, le monde, il est comme ça et on doit le voir comme ça. Ce qui nous intéresse, en tout cas, donc moi et tout le collectif qui travaille pour ce festival, c'est d'offrir une vision différente, sur différents points de vue, et qui finalement nous permettent de voir plus grand, plus large, voilà.
Et alors, différents temps sont prévus, donc il y a effectivement des projections de films, mais il y a aussi des conférences et des ateliers.
Oui, tout à fait. Il y a même des dédicaces des conférences d'auteurs qui viennent au festival. Pour une première session, pour une première année, c'est vraiment, voilà, c'est beau d'avoir pu réunir toutes ces personnes et puis de trouver cette thématique qui est quelque part originale, mais en même temps qui est complètement inscrite dans la vie, finalement. Hein.
Qu'est-ce que vous espérez du spectateur qui se rende à ce festival, à cette toute première édition? Qu'est-ce que vous espérez qu'il ressente, qu'il ressorte chargé de quoi peut-être?
Chargé d'espoir, chargé d'interrogation, et puis qu'il puisse retrouver ce chemin de la curiosité, se dire finalement peut-être je ne sais pas tout, et je vois bien que le monde est grand et que je peux aller chercher des réponses par moi-même, me faire aider certes, mais que les réponses sont là. Tout est présent devant mes yeux. Peut-être que je n'ai encore pas les yeux complètement ouverts, ou peut-être qu'il y a des voiles qu'il faut que je peux lever. Et c'est ça, cette idée de la curiosité et d'un fort potentiel. Il y a un potentiel merveilleux. La vie, c'est magnifique. Et parfois, on ne regarde qu'un seul objet, alors qu'en finalement, il y en a des tas d'autres autour, qui peuvent nous aider à voir en dehors de nos problèmes, en dehors de nos conceptions un peu étriquées.
Et peut-être même un certain optimisme, un certain élan.
Ah oui, complètement. On sort complètement de la notion d'information directe, continue, qui nous traverse tous les jours. Là, on va essayer d'atteindre des plans plus universels, plus globaux, de la nature, du rapport à la symbolique. Donc, on va toucher effectivement des plans qui nous permettent de nous ressourcer sur un autre plan. Je crois qu'il y a effectivement un temps de l'action, mais il y a aussi un temps dans la vie du repos, du ressourcement, de l'interrogation, de la méditation au sens premier du terme, hein, de savoir observer, prendre ce temps de distance. Et c'est ce qu'on veut aussi offrir aux spectateurs, ce temps de distance, de réflexion et de ressourcement profond dans la joie et dans le partage. Voilà. En fait, l'humanité, quoi.
Je le rappelle, le festival Cinéma et Conscience commence demain à Château-Gontier, au cinéma Le Palace. L'ensemble de la programmation est disponible sur le site internet. Merci beaucoup, Freddy Mouchard, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, belle journée.
Merci, vous aussi. L'agité du local sur l'autre radio. Cette séquence, je l'aime beaucoup, je sais que vous aussi. Il s'agit bien sûr de la lecture de l'auditeur et aujourd'hui, c'est Jeuneux que l'on écoute.
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'ai les yeux quand même, ça c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, et c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local.
L'enfant. Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. Kyo, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Kyo qu'ombrageait les charmilles, Kyo qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois un chœur dansant de jeunes filles. Tout est désert. Mais non. Seul près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui, une blanche aubépine, une fleur, comme lui dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux, hélas, pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus comme le ciel et comme l'onde, pour que dans leur azur de larmes orageux passe le vif éclair de la joie et des jeux, pour relever ta tête blonde, que veux-tu? Bel enfant, que te faut-il donner pour rattacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront et qui pleurent et parsent autour de ton beau front comme les feuilles sur le saule? Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux? Est-ce d'avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, qui d'Iran borde le puits sombre? Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand qu'un cheval au galop met, toujours en courant, sentant à sortir de son ombre? Veux-tu pour me sourire un bel oiseau des bois qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant que les cymbales? Que veux-tu? Fleur, beau fruit, ou l'oiseau merveilleux? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles.
Hier, ensemble, on découvrait comment est né le Horper Collectif, un groupe d'artistes locaux concernés par les troubles psy. Aujourd'hui, dans ce second épisode, je vous propose de vivre avec eux l'effervescence d'une répétition. Entre écriture, musique et dernières vibrations avant la scène, voici le second volet de cette aventure humaine et artistique.
Le 6-4, j'espère que ça va toujours. Ouais. J'ai écrit ce texte pour les personnes qui m'ont soutenue et qui m'ont accompagné dans mon parcours de rétablissement. Ils sont nombreux à être là ce soir. Cette chanson s'intitule « Un grand merci ». La mélodie est de Jérôme, je le remercie. Un grand merci.
À l'approche de leur concert le jeudi 17 avril, j'ai tendu mon micro aux membres du Horper Collectif lors d'une répétition au 6x4. Entre essais, éclats de rire et dernière mise au point, chacun se prépare à livrer ses mots, ses textes, son histoire. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer avec eux dans cette dernière ligne droite, là où l'énergie monte et où les histoires prennent vie en musique.
Bon, Bonjour, alors moi je suis Laetitia, je suis bénévole au sein de l'association. Je m'y rends régulièrement depuis 4 ans, 5 ans bientôt. Et en fait, j'ai commencé à comprendre un peu mes troubles par rapport aux personnes qui étaient là-bas déjà. Et à me connaître vraiment par rapport à des événements de ma vie qui ont été là et qui m'ont permis de rebondir par rapport aux médecins, aux pères aidants, aux gens qu'on peut rencontrer après pour pouvoir rebondir plus vite. J'ai aussi des enfants, donc j'ai consacré pas mal de temps à mes enfants et maintenant j'ai du temps pour moi, donc je m'exprime au travers de la musique par rapport à une révolte aussi que j'ai en moi depuis des années.
Vous aviez déjà fait de la musique avant de participer à ce collectif-là ou est-ce que c'était une toute première ?
C'était une toute première puisqu'avant j'écrivais. J'écrivais pour soigner mes maux, évidemment. Et ça m'aidait à rebondir. Et avant je travaillais, j'ai arrêté de travailler. J'ai eu pas mal de choses et en fait maintenant j'ai tout mon temps.
Qu'est-ce qui compte pour vous quand vous montez sur scène avec ce projet ?
On prouve en même temps qu'on est capable d'évoluer comme tout le monde, quoi. Parce qu'avoir des troubles psychiques, c'est compliqué. Faut être entouré parce que sinon, on peut vite dégringoler dans des choses qu'il faut pas. Donc, notamment la délinquance, parce que moi, jeune, j'étais délinquante. Enfin, j'ai sombré un peu dans la délinquance. Et je me suis relevé à chaque étape de la vie, ça a été compliqué. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis stable et je peux me permettre d'en parler sans pleurer ou sans... J'ai des émotions, mais je peux me permettre j'ai évolué avec le temps.
Aujourd'hui, les troubles psy, on en parle un peu plus. Comment est-ce que vous ressentez le regard que porte la société dessus ?
Les sujets sont tabous parce que il y a beaucoup de jugements de portée sur les gens qui sont troublés psychiquement et ça touche une personne sur 5 en France. Donc il y en a énormément maintenant. Donc c'est moins tabou parce que bon, il y a les médecins, il y a tout ça, mais il faut vraiment avoir un encadrement costaud pour pouvoir, faut se battre. De toute façon, déjà, en tant qu'humain, si on n'est pas battant, on n'arrive à rien. Mais en plus, avec des troubles, c'est encore pire.
Et est-ce que votre propre regard a évolué sur les troubles psy en participant à ce projet-là ?
Oui, mon regard a changé. Ouais, énormément, parce que je me dis, j'étais pas toute seule comme ça. Je voyais pas le mal que je faisais, Je me suis fait du mal à moi et j'ai fait du mal à mon entourage. Et aujourd'hui, je me suis dit, non, arrête de te faire du mal et tu verras bien et t'as plein d'autres choses à faire que de te faire suer avec des gens qui en valent pas la peine, Parce que quand on est comme ça, on a tendance à se faire aspirer par des gens toxiques. Et en fin de compte, quand on en sort de ça, on se dit, c'est réussi,
Et alors, qui dit répétition, dit musicien, justement, je monte sur scène et je me tourne vers eux.
Moi, je m'appelle Tess, j'officie dans le coin depuis 30 ans pour accompagner qui de droit à la création, en studio et sur scène, voilà.
Et moi, je suis Morgane, le sonorisateur du collectif. Mais là, vu qu'il y a un sonorisateur qui est déjà attitré, je me suis mis sur scène pour les accompagner.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire évoluer ce projet, d'y participer en tout cas ?
Parce que j'ai, pendant 2 ans récemment, galéré bien comme il faut psychologiquement. Je suis descendu très bas, très dur. Et je m'en suis sorti grâce à plein d'associations aussi, de gens qui m'ont aidé. Et quand on me les a présentés, j'ai tout de suite dit go, go, go. Avec une petite envie d'aider plus qu'à la normale. Donc là, j'ai mis tous mes 30 ans d'années d'expérience au service du collectif pour... préparer de la scène et puis éventuellement un petit studio. On est en train de réfléchir à ça pour un prochain recording. Et puis et du long terme derrière, parce qu'il y a plein d'artistes dans ce collectif qui ont des chansons et donc que je vais prendre en main individuellement aussi après, derrière.
Vous êtes à la fois musicien sur scène, mais vous créez aussi les arrangements.
Oui, ils sont arrivés avec du guitare-voix, avec de très belles compositions et puis des textes. Et puis ils étaient montés sur scène une première fois avec uniquement de la guitare. Donc l'idée, c'était d'instrumentaliser tout ça. Donc... on a pris les qualités de chaque. Morgane, j'ai appris qu'en plus d'être sondier, il était guitariste, pianiste. J'ai dit « Ouh, tu m'intéresses !»
Qu'est-ce qui vous touche là particulièrement, peut-être pendant la répétition ? Je trouve que quelque chose de palpable, c'est que c'est un moment de partage où chacun livre son histoire à tour de rôle sur scène.
Puis moi, personnellement, ça me touche énormément pour avoir galéré. Et puis, je faisais déjà, j'ai pas mal d'auteurs et de compositeurs, des gens qui souffrent et qui traduisent toute leur souffrance et tout leur malheur à travers des textes, à travers de la musique, et qui un talent fou, quoi. Donc moi, c'est à partir de là, c'est viens, et on va mettre ça en place, et on va magnifier le projet du mieux qu'on peut. Et puis, ouais, donc c'est, l'envie, elle est à la base perso d'aider, et encore plus avec ce qui m'est arrivé là. Donc là, avec eux, c'est un match total. Ils n'ont pas fini de m'avoir dans les pattes.
Qu'est-ce que vous voulez que le spectateur ressente jeudi quand ils vont vous découvrir sur scène? Vous voulez que le spectateur ressorte chargé de quoi, peut-être?
Principalement, je pense que c'est touché par la sensibilité de ce qu'ils ont à proposer.
Moi, c'est pas que je voudrais qu'ils repartent, c'est qu'ils vont repartir en étant touchés, parce que ça fonctionne de ouf, et ils transmettent toutes leurs émotions, et ouais, ça passe sans aucun problème. Donc, qui de droit sera là après-demain soir, mais ça, oui, il va repartir avec des émotions, plein le cœur, plein les yeux, tout, ça va le faire. Je suis hyper confiant.
Et oui, vous l'avez compris, les mots font leur chemin, il est temps maintenant de les laisser vibrer en musique.
Soyons nous-mêmes, puisque les autres sont déjà pris comme une rengaine, un instinct de survie, sans produits toxiques, sans chirurgie plastique, sans jugement. Allons de l'avant,
prenons le temps de vivre, soyons simples et zen. Prenons le temps de vivre, de courir dans les plaines. Prenons le temps de vivre, soyons simples et zen. Prenons le temps de vivre, de courir dans les plaines.
Chaque jour une perspective d'un départ nouveau. Réfléchissons bien vite, ça viendra tard ou tôt. Actifs nous devenons lorsque l'on sait dire non. Gardez la tête haute pour s'aider soi et les autres.
Prenons le temps de vivre, soyons simples et zen. Prenons le temps de vivre, de courir dans les plaines. Prenons le temps de vivre, soyons simples et zen. Prenons le temps de vivre, de courir dans les plaines.
Notre force et notre propre connaissance. Donnons-nous du courage, il n'y a pas d'impatience. La paix vient avec l'âge, comme un joli feuillage, sans jugement. Allons de l'avant.
Prenons le temps de vivre, soyons simples et zen. Prenons le temps de vivre, de courir dans les plaines. Prenons le temps de vivre, soyons simples et zen. Prenons le temps de vivre.
Et plus de peine.
Mardi, c'est le rendez-vous de Donatien. Il arrive toujours avec ses poches pleines d'histoires, des mots ramassés au bord du trottoir ou trouvés un peu par hasard. Enfin, jamais par erreur.
Miroir, oh mon beau miroir, dis-moi, quelle est la plus belle du royaume ? Donatien se souvient avec effroi de cette phrase prononcée par la belle-mère de Blanche-Neige, une marâtre acariâtre à la voix rauque, une marâtre jalouse de la beauté de Blanche-Neige. La déesse Aphrodite, déjà il y a bien longtemps, jalousa une princesse d'une beauté parfaite, nous raconte Apulée dans ses Métamorphoses. La déesse était jalouse de la beauté humaine. Pour punir sa rivale, Aphrodite confia une sombre besogne à son propre fils Eros. Le noir dessein échouera, et c'est tant mieux. Eros tombera amoureux de la princesse, cette princesse d'une grande beauté, on la connaît sous le nom de Psyché. Nom donné à ces miroirs ovales qui reposent sur les tables de toilette ou sur leurs propres pieds et qui renvoient aux femmes l'image de leur beauté, le charme de leur visage et l'élégance de leurs atours. L'idée que les dieux jalousent les humains est une idée qui plaît bien à Donatien. Aphrodite, quant à elle, ne cessera de poursuivre Psyché, de la persécuter en la soumettant à d'humiliantes et impossibles épreuves, jusqu'à ce que Zeus lui-même accorde à la jeune femme l'immortalité et qu'il la dote de délicates ailes de papillon. Cette histoire, les Mayennais la connaissent bien, puisqu'une statue de Psyché se trouve exposée à Laval, dans le jardin de la Périne. Il semble même qu'Aphrodite, toujours aussi jalouse, rôde encore, car les ailes de la statue créée en 1870 ont été brisées par une malveillante méchanceté. La beauté, fût-elle de marbre, ne serait-elle pas éternelle ? Que l'on se rassure et même que l'on se réjouisse. Grâce au soutien financier de la Fondation du patrimoine et grâce au soutien du Club des mécènes du patrimoine de la Mayenne, la statue sculptée par Hubert Lavigne va être rénovée. Selon un article d'Ouest France du 5 avril, le coût de cette restauration serait de 13 000 euros. L'automne prochain, Donatien pourra alors flâner dans le jardin public, marquer une pause ou prendre la pause devant cette psyché à laquelle les artistes auront redonné le charme et la beauté avec la même passion que celle qui anima Eros lorsqu'il redonna vie à l'objet de son désir avec un simple baiser. Dans quelques mois, le journal pourra titrer « Psyché a retrouvé ses ailes ». Rappelons-nous que la psyché désigne aussi l'âme humaine dont elle est le miroir et que ses ailes, qui sont celles de l'amour, ont la fragilité des ailes de papillon.
La vie c'est comme les papillons, d'abord chenille dans son cocon, et puis un beau jour sortir du coton. Se retrouver en plein soleil, bâiller en déployant ses ailes et s'envoler. Oh, 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 oh. Comme les papillons, yeah, yeah. Oh, trois petits tours et puis partir. Hey, yeah. Car papillon, jamais revenir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, toujours, 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 toujours mon choix.
Toujours mon choix, toujours mon choix, toujours mon choix.
Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours
l'amour. Papillon du soir, mouchoir. Les hommes, tout comme les papillons, d'abord pleuraient dans les jupons. Et puis un jour quittaient la maison. Tuilou volait de balcon en jardin, planait de bonheur en chagrin. Tu étais le papa des bébés. Bonobo, bonobo.
C'était Papillon de Louis Chédid, l'agité du local. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Freddy Mouchard d'avoir été à notre micro. Merci à Jeuneux, merci Donatien et merci à toi Maxime. Alors on va rendre l'antenne, mais dis-moi ce que l'on écoute sur les ondes de l'autre radio aujourd'hui.
La soirée commence à 19h avec Eldorado. C'est une émission animée par Pierre Lemarchand et elle est consacrée aux musiques folk et rock.
Et ensuite,
la soirée continue en rentrant dans le monde du rap avec Frères de Chaussures à 21h.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec le collectif Zéro Tapage qui organise le 10 mai un open air au Square de Boston, à Laval. Et on aura donc le plaisir d'en parler avec eux. D'ici là, passez une belle journée en gardant dans un coin du cœur ce qui vous fait du bien. Vous le méritez, s'il vous plaît. Faites-le bien.
Bon, ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.